se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Gigi, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, est avec nous. Marianne Soubré, avocate, et de la partie aussi. Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, aussi est avec nous.
Active et émue pour toutes les personnes qui se battent contre le cancer, toutes les victimes qui sont du cancer, en particulier une auditrice dont j'ai perdu le nom, qui a un cancer du sein, qui est enfermée chez elle et qui m'a beaucoup émue lors de son témoignage. Et à mon tonton Ahmed, qui est mort aussi du cancer, le 7 juillet dernier, et c'est 40 jours aujourd'hui, donc big up. On parle beaucoup du Covid et de plein de virus, et cette maladie emporte beaucoup de monde autour de nous, donc courage et aux malades et aux familles qui sont autour.
Oui, d'autant plus à ceux, les périodes estivales pour les gens qui sont à l'hôpital, qui ont des longues maladies.
On est là, on est avec eux, on est toujours là.
Et c'est juste pour les saluer, je sais que dans bon nombre, parce que j'ai pu le vérifier, d'hôpitaux ou de salles communes.
Maison de retraite.
Voilà, maison de retraite. On met la télé, on met les GG, parce que les émissions de débat comme ça, ça tient, ça aide, stimule,
ça donne de l'énergie.
Ça donne de l'énergie. Donc, un grand salut à vous, et croyez-moi qu'on pense effectivement à tous ceux qui sont en difficulté. La fourniture les fournitures scolaires, est-ce qu'on doit les rendre gratuites, oui ou non? Ça va être notre GG, c'était match.
RMC.
GG, 7 et match.
Donc on a une équipe, oui, il faut les rendre gratuites avec Kaouter et avec Marianne. Non pour Didier Giraud, mais on va écouter le secrétaire général de la FCPE, les parents d'élèves. Voilà ce qu'il en dit.
Ce que l'on souhaite, c'est qu'effectivement, les livres scolaires, les fournitures, soient fournis par l'État. On a l'État qui fournit cette allocation de rentrée scolaire. Alors, qui sert pas seulement aux fournitures, qui va servir à d'autres choses, mais par contre, qui est très loin d'être suffisant, en particulier pour plus de 3 millions de familles en France qui perçoivent cette ARS.
Voilà, on a l'allocation de rentrée scolaire, il ne faut pas l'oublier. On est à moins de 2 semaines de la rentrée des classes. Bon nombre d'associations familiales dénoncent le coût des fournitures scolaires. Parfois d'ailleurs, une liste à rallonge. Bon, le coût moyen, c'est 190,38€ en école primaire, 377,85. Pour ça, je dis le coût moyen. Hein, 377,85 au collège et lycée en filière générale. Alors, globalement, il y a une légère baisse quand même. Hein, c'est ce que disent les associations. Sauf que...
Le prix va augmenter, là.
Voilà. Les prix vont sûrement pour ceux qui ont fait leur course là déjà de fournitures scolaires sur juillet, ils ont dit bon, globalement ça a baissé, mais il va y avoir des hausses des prix à la prochaine rentrée. Mais surtout que ces hausses des prix pour les fournitures scolaires, elles s'ajoutent à toutes les hausses des prix. Donc finalement, c'est de dire les fournitures scolaires, c'est indispensable, les enfants vont à l'école, donc pourquoi ne pas les rendre gratuites. 32-16, vous en parlez avec les GG, la team Marianne Kaouter face à Didier Giraud, le roc de Saône-et-Loire, le taureau de Paray-le-Monial. C'est ça, c'était bien Paray-le-Monial.
Je suis né à Paray-le-Monial.
Oui, c'est ça. Bon, allez, on va donner la parole à Kaouter. C'est elle qui a la minute, c'est elle qui est au service. Elle donne ses arguments pourquoi il faut rendre les fournitures scolaires gratuites. Go!
On doit rendre les fournitures scolaires gratuites parce qu'on dit que l'école communément est gratuite, mais c'est juste l'accès à l'école qui est gratuit. Et il y a des fournitures, il y a des livres, comme l'a dit le monsieur du syndicat, qui sont à acheter. Peu importe que ce soit en école d'ailleurs primaire qu'au collège et au lycée, à acheter toute l'année. C'est un coût moyen de entre 100 et 120 euros sur les livres qu'il faut acheter. Il y a aujourd'hui une nécessité d'avoir un accès à Internet. Il y a des familles qui n'avaient pas accès à Internet et c'est une nécessité aujourd'hui parce que les enfants doivent faire des recherches sur Internet, etc. etc. Donc, tu as le coût de l'abonnement qui est aussi dans l'école. Tu as l'accès à une activité sportive, même quand c'est une activité sportive et culturelle qui est nécessaire, même quand on passe à l'école, qui a un coût à l'année aussi. Et aujourd'hui, les 300 balles que reçoivent les familles, non seulement elles sont insuffisantes, elles étaient déjà insuffisantes sur tous les coûts qu'il y a, parce que c'est pas que acheter des cahiers que d'avoir accès à l'école, mais avec la crise, avec tout est plus cher, que ce soit se loger, l'électricité, se nourrir, les abonnements de transport aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui prennent des abonnements pour aller à l'école. Je suis désolée, les 300 euros que reçoivent les familles les plus vulnérables ne suffisent pas. Et donner les cahiers, la base, les calculatrices, c'est hyper cher. Donner toutes les fournitures scolaires de base, c'est pour moi une nécessité gratuite. Et aussi, je voudrais que les enseignants fassent un effort, parce que c'est scandaleux. Ils demandent des cahiers. Moi, j'ai mis 3 mois et demi pour trouver le cahier de mon fils de dessin, en plus, tu vois, l'année dernière, parce que c'était un format spécial, il fallait le commander, c'était une rupture de stock dans toute la France, etc. Et souvent, on pourrait réutiliser des cahiers qui sont pas terminés d'une année sur l'autre. Et sauf que chaque nouveau enseignant.
Oui, ça va assez.
Oui, mais c'est une question essentielle pour les Français.
Le cahier de dessin de son fils qui était une question essentielle.
Non, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Oui, j'ai bien compris. Didier Giraud.
Écoute, pourquoi non ? D'abord parce que j'ai un énorme respect pour tous mes amis qui gèrent des collectivités locales et territoriales, et que si demain on rend les fournitures scolaires gratuites, ça va peser d'abord sur ces collectivités-là qui aujourd'hui ont assumé l'entretien du bâtiment école, et puis alors les communes pour l'école communale, enfin voilà, je vais pas tout décliner à chaque fois, mais et le transport scolaire et de dire aujourd'hui rendre les fournitures gratuites, quand dans un même temps l'État se désengage vis-à-vis de ses collectivités territoriales et les gens grognent à chaque fois que les impôts de ces collectivités locales augmentent. Donc de dire non, les fournitures scolaires, ça serait un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport au fonctionnement du département, de la région et de la commune. Je trouve que c'est d'abord pour protéger l'impôt des Français, mais de façon indirecte. Alors après, derrière ça, je ne suis pas hostile au fait que l'ARS soit revalorisée, qu'on aille différencier.
Elle a été revalorisée cette année, quand
même. Non, mais qu'on aille différencier des histoires de revenus dans l'ARS. Et puis après, moi, j'aimerais bien qu'elle soit fléchée, quoi. De dire que l'ARS, il y a un volume de choses que tu viens de lister très bien, Kauter, qui peut être payé avec l'ARS, et puis un volume de choses qui ne peut pas être payé avec l'ARS. Voilà. Le fait de flécher l'ARS, à mon avis, ça serait aussi rendre service à ceux qui la touchent. Et puis le dernier argument que j'ai, c'est parce que la gratuité, c'est quand même l'école du non-respect, quoi.
Mais non.
Et si tu regardes, il y a pas très longtemps que j'avais des enfants au collège, et quand tu regardes les cahiers ou l'agenda sur lequel tu leur faisais mettre 20 ou 30 euros parce qu'ils voulaient un agenda mieux que celui que le ménage allait leur acheter, comment ils le géraient, et puis comment ils respectaient les livres de l'école à côté, je trouve que ça en dit beaucoup sur le fait que ce qui est gratuit, c'est pas respecté, quoi. Et de dire il faudrait que l'école fournisse des calculatrices à tout le monde, les calculatrices, au bout de 3 jours, elles seraient pétées, quoi. Voilà. Alors, moi, je pense que il y a vraiment par rapport à ça une espèce de déontologie, quoi.
Marianne Soubré.
Deux choses. La première, c'est que déjà, j'aimerais qu'il y ait de la discipline chez les professeurs, parce que c'est ridicule. Des fois, t'as des listes complètement ridicules, avec effectivement le cahier. C'est peut-être anecdotique, mais cette anecdote-là, on l'a tous, du truc avec 96 pages et les petits carreaux, grands carreaux, etc.
Le crayon de papier HB++-Z.
Il y a des tas de collèges et de lycées qui ont mis en place des listes uniques, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment généraliser les listes de fournitures.
Dans toute la France, même.
Voilà. Il faut généraliser.
Les rectorats qui se mettent d'accord.
Les listes de fournitures uniques, à la limite, une lisée 6e, 5e, 4e, 3e, de toute façon, il les faut. Ensuite, il faut aussi se rappeler quand même que quand on nous dit que l'école est gratuite, elle est aussi obligatoire. Obligatoire, ça veut dire que l'on doit fournir les moyens à tous de pouvoir travailler de la bonne façon, c'est-à-dire avoir un compas, avoir une équerre, etc., etc. Et ça, il y a des gens, effectivement, il y a des familles qui n'ont pas les moyens d'acheter ces fournitures-là. Si on donne un package, en plus, ça évitera si tous les petits écoliers, les petits collégiens de France reçoivent le même package. Tu n'auras plus la concurrence à celui qui a le truc à 30 balles, justement, qui a le truc à 5 balles. Et ben, ça, c'est très bien. Moi, je trouve qu'au moins, ça nous permet de faire.
Non, mais à ce compte-là, on remet en place la blouse.
Et ben, pourquoi pas?
Pourquoi?
Ah, mais moi, je suis pas contre.
Et puis, les hussards de la République.
Et ben, pourquoi pas?
Mais on est revenu aux misérables.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Au contraire, on donne à chacun la même chose et les mêmes outils.
Je crois que la gratuité, c'est d'abord le non-respect.
Mais non, parce qu'on leur donne à chacun son
intention. Moi, je suis désolée pendant le Covid.
Mais non, arrête Kauter, mais constate, mais regarde. Mais regarde comment se comportent des collégiens, quoi, Kauter.
Oui, mais quel est le rapport? Là, ton cahier, de toute façon, tu vas t'en servir toute l'année.
Exactement, c'est ton cahier.
Alors, tu le perds.
Comment?
Tu le perds. Admettons, tu perds ta trousse.
Mais là, tes parents le rachètent.
Ah, d'accord.
Mais bien sûr.
Ah, ben oui.
Au départ.
Mais t'as un trousseau.
Vous nous refournissez.
Mais non. Chaque élève a un trousseau.
Exactement.
Voilà. Et il fait attention à son trousseau. Voilà, c'est tout.
L'année dernière.
Ça marchait à l'armée.
Comme a dit Marianne, mon fils a un gabarit d'un enfant de 8 ans et tout, etc. L'année dernière, rentre au collège, je soupèse son sac. Même pour moi, il était lourd. Donc, je vais voir le proviseur. Je me dis, vous avez pas de casier, tout ça, etc. Il me dit, non. Il faut voir tous les livres qu'ils ont apportés, etc., etc. Tu vas dans des pays voisins, les minots, dans leur sac à dos, ils ont le carnet, l'agenda, et encore, ils n'ont même plus besoin d'agenda, parce que maintenant, tu as tout par pronote, ils ne donnent même plus des devoirs comme ça, donc tu rentres sur le... Donc ça oblige les enfants à avoir un téléphone. Moi, quand j'ai commencé ici, mon fils n'a pas de portable. Il fallait que tous les soirs, j'appelle ma voisine chez qui il dormait pour lui donner les devoirs, parce que les profs, ils donnaient les devoirs en fin de journée et qu'il n'avait pas accès à ses devoirs. Donc ça m'a obligé à acheter un téléphone.
C'est pas lié à la gratuité des livres, ça, pas des cahiers.
Tu n'as pas compris. C'est une dépense contrainte que je n'avais pas moi avant, etc., etc. Donc l'enveloppe de l'ARS ne suffit pas. Il y a aujourd'hui des dépenses contraintes.
À la fin, c'est qui paye quand même aussi.
Moi, je pense que donner, comme dit le dit Marianne, un même package sans marque,
voilà,
le même trousseau. Package à tout. Et après, quand tu perds, tu rachètes. Ça a perdu, c'est tout. C'est comme ça. Il y a pas de. La règle, elle est définie au départ, mon cher Alain. Donc tu as ton trousseau. Tes enfants ont accès à l'école, ils ont tous le même matériel. Moi, j'ai vu une maman, elle m'a choquée en primaire. On a des enseignants qui mettaient, tiens, on te demande un paquet de pochettes plastiques, un paquet de ramettes, etc. Et c'est un pot commun. Eh ben, elle marronnait parce que après les interrogations écrites, donc toutes les pochettes plastiques étaient mises en place. Elle a acheté des pochettes hyper rigides, chères, tout ça, etc. Sauf que ben, des fois, son fils avait le bon marché de la famille qui n'a pas les moyens. Elle est venue en réunion, elle dit « Ouais, moi j'achète des pochettes à 12 euros à mon fils et vous donnez de la merde à 2,50 euros. » Mais on s'en fout, c'est pour mettre sur une interro, à la fin de l'année tu la jettes, tu vois. Donc, à un moment donné... Pour plus qu'il y ait... Moi, je suis pour l'uniforme, je suis pour le tablier, etc., etc. Que tous les enfants aient accès à la même école, au même matériel, etc.
Et
tu les responsabilises.
Le tablier, c'est pour protéger les vêtements des taches.
Ou
de la peinture, ou des feutres.
On peut aussi envisager autre chose, ça serait une bourse. C'est-à-dire que on achète tous la même chose, c'est-à-dire c'est commandé en gros par l'école et ça fait des tarifs beaucoup moins chers et on a tous, si tu veux, que le trousseau soit gratuit ou qu'il soit payant commandé par l'école mais à 10 euros au lieu de l'avoir à 100 euros, tu vois.
Je suis d'accord avec ça.
Tu veux l'achat groupé,
que ce soit le rectorat qui gère collectivement les fournitures pour qu'ils aient tous pareil et que tu fasses baisser les coûts. Mais ça me va. Mais du coup, c'est loin du principe de la gratuité, quoi, ça.
Ça se rapproche. Parce que quand tu payes.
Gratuit pour les boursiers,
pour la coopérative. Quand tu payes 10 euros la coopérative à l'année, 3 euros quand tu as 3 enfants, etc.
Je retiens votre idée du trousseau. Bon. Mais alors, tu le fais pour les 3 écoles, c'est-à-dire le primaire, le collège.
Chaque fois qu'on te demande d'acheter des trucs.
Voilà. À chaque rentrée,
voilà,
pour chaque classe.
Et le lycée privé, professionnel, parce qu'ils ont du matos beaucoup plus cher.
Pire,
et tu mets quoi? Alors attends, tu mets quoi dans le trousseau?
Parce que les profs demandent. Parce que on oblige les profs.
Non mais du coup ça
des livres communes.
Voilà, c'est ça.
Parce que c'est ça le problème.
C'est ça l'enjeu.
Le vrai
problème. Bienvenue en URSS.
Un peu quand même, mais
parce que les fabricants qui eux chaque année, c'est tu vois
du marketing,
etc. Et ils vont dire vous êtes bien gentils, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc on met un produit neutre. Un cahier neutre, un bic 4 couleurs neutre, un crayon gris neutre.
Et si tu veux acheter autre chose, tu l'achètes, mais au moins l'égalité fait que tout le monde aura les mêmes
trucs. Mélenchon le voulait, Mohamed et Marianne Soubé l'ont fait.
On peut la jouer comme ça, là.
Je vais vous dire, juste un argument, parce que quand tu dis c'est nous qui payons avec nos impôts, c'est vrai, mais moi j'ai envie qu'on mette de l'argent dans l'éducation. C'est un des endroits où.
Non, mais c'est partout qu'il faut mettre de l'argent.
Tous les impôts dans les.
On n'a pas fait le débat ce matin, mais t'es comme moi si on disait, finalement, comme l'essence rebaisse, on va pas mettre les 30 centimes, tu vas dire non. Donc, à un moment donné, à force d'en rajouter, qui paye, quoi?
Non, mais d'accord, mais.
À la fin, qui paye?
T'es d'accord que l'éducation, ça doit être prioritaire?
Mais ton système où il y a, en amont, un travail sur les fournitures qui fait que le rectorat impose des listes communes à tous les enseignants dans le niveau où ils sont, et ça leur permet de déclencher une commande groupée, et payes à la coopérative qui fait la commande groupée. Enfin, ça me va. Mais moi, ça me va. Moi, où je suis hostile, c'est au principe de la gratuité. Parce que la gratuité font que des adolescents, ils ne respectent pas.
Mais voilà, non, je suis désolée. Tu sais, moi, il y a des petits gâtés autour de moi qui demandent des choses à leurs parents. J'ai envie de les prendre, de les tarter, tu vois, de les attacher contre le mur et de jouer aux fléchettes contre eux parce que les parents s'exécutent. Non, mais façon de parler. Je veux ça. Une maman, je veux ce cahier. Et non, mais moi, un agenda.
Oui, mais je suis d'accord.
Pour sa grand-mère jusqu'à après-demain, il n'aura pas. Tu vois,
on est d'accord. Voilà.
Et en plus, on n'avait même plus d'utilité. Sauf qu'à un moment donné, je suis désolée, tous les enfants doivent avoir accès et à l'école de la même manière. C'est ça le principe d'équité. Et après, si tu as les moyens et que tu es blindé de thunes et que tu fais plaisir à ton enfant et que tu veux lui acheter 120 cahiers de telle marque avec le ci, le ça, la mode.
Est-ce que vous savez comment ça marche quand vous avez 3 ou 4 enfants et que vous n'êtes pas riche? Eh bien, vous avez acheté un compas pour 4.
C'est ça.
Et alors, résultat, ben, s'ils en ont tous besoin le même jour, ils ne l'auront pas.
Ouais.
Mais c'est... Non, mais la
alors,
vérité,
on va regarder
est là.
La consultation.
Tu crois, que dans une classe de 6e, tout le monde n'a pas son compas. Enfin,
gratuité des fournitures scolaires. C'est notre GG 7 et match. Didier est seul face au reste du monde. Mais c'est un non quand même à 71%.
J'en étais sûr.
C'est plutôt dans le camp de Didier.
Les gens ne sont pas avec les mamans qui ont du cœur.
Deux opinions.
Tu te comprends, t'as la virée.
Regardez les mamans. Votez pour les mamans.
Kevin, infidèle des GG.
Qui ils sont pas du côté des mamans.
Qui est professeur des écoles et qui est plutôt dans le camp du non. Et Gilles, du côté du Rhône, plutôt dans le camp du oui. Gratuité des fournitures scolaires. C'est notre GG 7 et match du jour.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Didier Giraud, avec Marianne Soubré, avec Kaouter Ben Mohamed, et on parle, c'est notre GG 7 et match, de la gratuité des fournitures scolaires. Oui ou non, on les rend gratuits. C'est Kevin qui veut intervenir. Kevin, ta fidèle des GG, qui est instituteur, enfin, professeur des écoles. Bonjour Kevin.
Bonjour Alain, j'aime bien instituteur. Je reste instituteur.
Kevin, juste d'un mot, tu as fini tes vacances?
Bah écoute, ouais, j'étais en train, je vous écoutais en préparant ma classe ce matin.
Reposer prêt
dans les oreilles, voilà. Ouais, reposer prêt, motivé, c'est la période où on cale un peu les projets de l'année, donc c'est un moment de préparation assez sympa.
Donc c'est le moment aussi où on fait la liste des fournitures scolaires, Kevin.
Ouais, alors nous c'est fait depuis en fait le mois de juillet, parce que justement on a en fait une liste commune par niveau de classe, qu'on est une grosse école avec plusieurs classes pour chaque niveau. Donc on a une liste commune pour le CM1, on s'est mis d'accord avec les collègues. Et ensuite, voilà, on peut demander éventuellement un petit achat particulier pour chaque classe en début d'année, mais ça reste de l'ordre du détail. Voilà, moi j'étais quand même plutôt sur la ligne de Didier. Alors même si je pense qu'il y a une partie qui doit être en effet fournie directement, je pense au gros matériel coûteux, notamment les manuels, mais aussi pourquoi pas les compas, enfin les calculatrices éventuellement sur le secondaire. Mais je pense que le fait d'aller de demander aux familles d'acheter justement ce que j'appellerai un peu le fonds d'épicerie. Le fond de trousse, donc une trousse et stylo de base, la règle, l'équerre, etc. Je pense que c'est un moyen de responsabiliser les enfants et les parents par rapport à ce matériel et de montrer l'importance aussi de donner de l'importance à l'école. Parce que c'est aussi un suivi sur l'année, c'est aussi regarder toute l'année la trousse de son enfant, voir où il en est, le responsabiliser, même si nous on le fait en classe, sur le respect de son matériel, le soin qu'il apporte à son matériel.
C'est pareil, c'était gratuit. En fait, Kevin, je vois pas la différence.
Je comprends pas, ouais, moi aussi.
Si, parce que justement, le fait d'aller faire les courses avec son enfant, moi, c'est ce que je vais faire avec les miens, hein, on roule pas sur l'or non plus. Et donc, à un moment donné, on va se retrouver au rayon d'école. Et au rayon d'école, il y aura la colle de base, qui colle très bien. Et il y aura la colle à côté avec le super logo Star Wars ou je sais pas quoi. Et donc, moi, je vais expliquer à mes enfants que, on va prendre la colle qui colle très bien et puis qui est 2 € moins cher. Parce que le logo Star Wars, il a pas grand chose par rapport aux compétences scolaires.
Bien sûr.
Donc, je pense que si dans chaque famille, on faisait ce travail-là, il y aurait aussi un acte de la part des parents de valeur de l'école et de sens du matériel scolaire. Je pense qu'il y a une notion de sens qui est importante derrière et je pense qu'on peut s'en sortir, je dis bien sur le matériel de base et pas sur les livres et autres, avec un très petit budget, en étant un peu responsable en tant que parent et en luttant un peu contre le marketing.
Il n'y a pas de petit budget.
Bah, oui, si, je sais que pour certaines personnes, ça peut être difficile. Je sais que pour certaines, et c'est bien qu'il y ait l'allocation de rentrée scolaire et qu'elle serve à ça. Mais voilà, je suis convaincu que cet acte d'aller acheter le matériel, de faire la trousse avant la rentrée scolaire avec son enfant, au niveau du sens qu'on donne à l'école pour les parents, c'est énorme.
Et puis ça oblige les parents à un certain suivi, Kevin.
Mais non, le suivi, ouais, tu le fais quand même parce que toute l'année que tu achètes matériel.
Mais toi, Kaouter, toi.
Mais
il y a plein de parents qui s'en foutent de l'école de leurs enfants.
Donc, les conseils départementaux de France donnent un kit, tu vois, de tout bidon, il y a tout cahier, une trousse, etc. Qu'on te donne ça ou qu'on te donne pas ça, tu vas regarder. Quand ton fils te dit j'ai plus de stylo, ben j'ai plus de stylo, mon stylo ne marche plus, tu es obligé de le remplacer, que tu l'aies acheté, que tu aies acheté le kit de base ou pas. Et ce que vous avez dit, c'est important. Moi, j'y suis très sensible et je fais beaucoup de pédagogie autour de moi sur les kits, enfin, le matériel qu'on peut acheter avec le Star Wars, le dessin animé, le truc à la mode, tout ça, etc. Vous avez raison sur ça, sauf que c'est deux problèmes différents. Là, on parle de conscientisation, on parle des gens qui craquent parce qu'ils ont que ça à offrir à leurs enfants en termes de plaisir parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter à Nintendo, ils ne vont pas en vacances, qui te disent oui, je craque sur la trousse Star Wars, je craque sur le truc Spider-Man parce que c'est le seul plaisir que je peux offrir à mes enfants. Ils ont tort. Je sais, je suis dans votre camp de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire,
Kevin?
Mais c'est pas parce que vous avez un kit en début d'année qui est offert que vous allez abandonner vos enfants le reste de l'année.
Après, est-ce qu'il n'y a pas moyen de...
Je parle par expérience. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a vraiment une différence.
Kevin, il n'y a pas moyen de réduire.
Non, mais ils l'ont fait, tu vois.
La liste des fournitures, non, Kevin, ouais.
Non, mais ce travail-là, toutes les écoles ne le font pas.
Alors, après, voilà, il y a aussi, là, ce que je voulais apporter, Didier en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a de toute façon une inéquité entre les différentes communes. Il faut savoir que le budget de fournitures scolaires, c'est-à-dire que nous, ce qu'on dépense pour justement investir sur le matériel qu'on va avoir dans la classe, il dépend de la commune. Et bien souvent, c'est les communes les plus pauvres, donc qui ont aussi souvent les administrés les plus pauvres, qui ont le moins de budget, donc à qui on finalement les enseignants vont pouvoir acheter le moins de matériel et donc de fait vont demander forcément le plus de matériel aux familles. Donc là, peut-être qu'il y a à réfléchir sur un budget d'État sur l'achat des fournitures et charge à chaque équipe enseignante ensuite de voir ce qu'elle en fait.
D'accord.
Là pour le coup, c'est important. Par contre, ce que je voulais souligner quand même dans le débat. Il y a un poste de dépense qui est nouveau et qui va, à mon avis, aller grandissant, c'est le poste de dépense informatique. Et là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir au niveau national, au niveau du ministère, sur comment est-ce qu'on fait pour garantir que chaque enfant, j'irai à partir du collège, peut-être à partir de la quatrième à minima, peut avoir accès à un équipement informatique de qualité à la maison.
Avec un ordinateur.
Qu'aujourd'hui, dès le CM1, on nous demande de faire de la programmation. Comme disait Kaouter tout à l'heure, il y a en plus les devoirs qui sont sur Pronote. On a des outils fabuleux au niveau du numérique. Et là, pour le coup, il y a une vraie inéquité. Et nous, on essaie d'être vigilants par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a une réflexion pour l'avenir à ça.
Et derrière, les conseils départementaux
avec un petit message personnel.
Ouais.
Ouais. Petit message personnel quand même pour Marianne, pour qui j'avais un profond respect, mais son mépris de la danse des canards l'a fait vraiment baisser dans mon estime.
Bien joué, Kevin. Moi, j'ai une dernière question, Kevin. Vous êtes au contact des élèves, vous, et de jeunes élèves. Et est-ce que vous constatez pas, parce que c'était le début de mon propos, une inéquité entre le respect du bien collectif et le respect du bien individuel, quoi?
Si, un petit peu, même si on essaye de les responsabiliser. Mais oui, c'est vrai que globalement, le matériel qui peut être en prêt, si nous, on n'a pas un regard et une vigilance par rapport à ça, on peut se retrouver avec du matériel qui est vite cassé et vite abîmé. Nous, après, ça fait partie de notre rôle aussi. Ça fait partie de notre rôle en tant qu'enseignant de faire prendre conscience aux enfants que le matériel, il est mis en commun.
Bien sûr. Merci, Kevin.
Merci. Un petit exemple sur la responsabilisation. L'année dernière, on a dédié un budget, en fait, de l'école, à un conseil d'enfants, donc avec des délégués. Et en fait, ils ont choisi du matériel pour la cour, des jeux de cour. Et donc, voilà, c'est eux qui ont fait le choix et on leur a dédié ce budget-là. Et on espère, on va voir ce que ça va être mis en place l'année prochaine, que du coup, ils vont en prendre plus soin dans la mesure où c'est eux qui ont fait ce choix-là.
Merci, Kevin. Bonne rentrée du côté de Grand-Champ-des-Fontaines. Bon. Merci.
Bon courage, Kevin.
Salut, Kevin. Gilles, bonjour.
Bonjour.
Gilles Durone. Alors, équipe oui ou équipe non pour la gratuité?
Alors, moi équipe non, mais je pense que mes propos vont peut-être surprendre et un peu choquer. Je pense qu'aujourd'hui, on a un État qui est là, on a un ministère de l'Éducation nationale, on a des gens qui sont payés dans des bureaux parisiens et même très bien payés pour préparer des programmes scolaires et faire en sorte que des enfants de France aient tous le même niveau d'éducation. Et normalement qu'on soit tous égaux là-dessus. Et il y a une chose toute simple. Aujourd'hui, l'État français dispose de moyens, une puissance d'achat, donc, avec des centrales d'achat telles que l'UGAP, où il pourrait très bien aller acheter de manière, en gros, l'intégralité des besoins des élèves du, on va dire, du CP jusqu'à la terminale, en donnant un kit complet qui dont chaque élève a besoin, que ce soit la tenue de sport. Jusqu'à la tenue de sport.
Vous allez jusqu'à la tenue de sport.
Bien
vous.
Sûr.
Et dessus, oui. Survêtement, marque CCP.
Oui, mais. Pour,
la raquette de badminton, mais, le si. Tous les trimestres, tu changes de sport.
Allez-y,
de
Gilles.
Mais l'avantage de ce système-là permettrait d'éviter d'avoir certaines remarques un peu désobligeantes qu'ont fait certains ministres l'année dernière lors de la rentrée scolaire en disant à quoi sert la tenue de rentrée scolaire ? Est-ce qu'elle sert véritablement à acheter
il vaut mieux contrôler ça.
Ouais, ah non, il a raison. Imagine, tu fais toute la tenue, t'as plus besoin de verser l'allocation d'entrée scolaire.
Hein. Excuse-moi,
tu comprends.
Gilles, pardon, mais là, on est dans le délire. Hein. Plus personne veut payer quoi que ce soit.
Mais
la
non,
cantine, ça
mais
coûte
non,
2
c'est
euros.
L'inverse.
Non, non, c'est de la folie. Là, qui disent, il faut que ce soit gratuit.
La cantine,
mais
2 euros.
Mais t'as des endroits où la cantine, en fonction de tes revenus, t'en as qui payent 2, 3 euros
ouais,
maximum, voire moins.
Je finis.
Je suis au bout de mon raisonnement. La cantine, plus personne veut payer. Il y a même des municipalités qui disent, d'accord, c'est gratuit. Les fournitures scolaires, c'est gratuit. Ouais, mais je peux pas aller à l'école.
Le bus.
Je peux pas aller à l'école à poil. Ah, bah alors attends, bouge pas, on va t'habiller. Allez, c'est gratuit.
Le bus pour aller à l'école.
Ma compagne en voiture. Bouge pas, on va mettre de l'école gratuite. Non, mais oh. Mais plus personne veut payer, plus personne veut se responsabiliser. Mais c'est quoi ce délire?
On
marche sur la tête.
C'est pas ce qu'on a dit, Alex.
Mais si, mais on marche sur la tête.
Garde les 300 euros de la rentrée scolaire. Gardez les 300 euros de rentrée scolaire. Gardez-les.
Mais
non, mais
non,
je dis.
Mais au contraire, les gens se responsabilisaient parce que tu avais le sens de la valeur des choses en payant. Tu sais ce que ça coûte. Et les familles disent, t'as cassé mon grand. Eh ben, je peux pas racheter. Mais si, enfin. Non, plus personne a le sens de la valeur.
Mais non, mais quand tu casses, ils ont pas les moyens de racheter déjà.
Allez-y, Gilles.
Non, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, la situation est tellement compliquée et tellement difficile pour chaque ménage français que malheureusement, cette somme qui est allouée à la base pour servir à aller chercher les fournitures scolaires, le survêtement, le machin, ce que vous voulez, qui va servir en fait à l'usage de l'école, n'est pas, on va dire, entièrement affecté à ça. Il y a une partie qui va...
C'est de la responsabilité des parents, et c'est pas ça qu'il faut rendre les choses gratuites.
Est-ce que je peux dire quelque chose?
À ce moment-là, pour qu'il y ait une certaine équité totale, on arrête de verser cette somme.
Voilà.
On la
dévie, et on fait les packages.
Et on fait les packages, et au moins, vous auriez, tous les élèves de France auront tous la même chose. Après, si vous décidiez, vous, de rajouter et certaines choses, et ben vous le faites.
Voilà.
Mais votre package de base qui sert à donner
l'enseignement. Ah non, vous verrez qu'à ce moment-là, on dira, ne rajoutez pas.
Non, c'est de la spéculation, ça. Mais non, c'est
et parce que sinon, pauvre petit, il verra sa famille, elle a plus les moyens, elle a rajouté quelque chose.
Non.
Et ça va frustrer celui
qui
a
mais non, Alain. On parle de l'équité, de l'accès.
C'est CCP, et puis
c'est l'accès. Quand on dit que l'école est gratuite en France aujourd'hui, elle n'est pas complètement. Je suis désolée. Et ça ne sert à rien pour la première fois.
Parce que la gratuité, ça n'existe pas.
Mais non,
je ne
dis pas.
Au bout de la gratuité, il y en a un qui paye.
Mais c'est toi, quand tu dis que le ramassage scolaire est gratuit, peut-être dans ta pas cool, mais dans les villes, on paye les abonnements, un bras et une jambe. Dans ta pas cool, dans ta campagne, il y a du ramassage scolaire. Mais dans les villes, les gens payent des abonnements.
Ne sois pas dédaigneuse avec mon trou perdu.
Je ne suis pas dédaigneuse. J'adore la campagne et je suis pour le monde rural et je le soutiens à 8000.
Mais aujourd'hui, c'est les conseils départementaux qui payent le ramassage scolaire.
Chez toi, mais chez nous, moi, je paye l'abonnement à mon fils tous les mois. Je suis désolée. Ou à l'année, ça dépend de si j'ai les moyens de. Si je paye l'année, j'ai un mois offert ou un truc comme ça. Enfin, bon, peu importe, c'est pas le propos. On te dit, garde les 300 ou 400 balles par mois. Voilà. Achète dans une centrale. C'est-à-dire que quand. Combien il y a d'écoliers? J'ai pas le chiffre. Dites-moi combien il y a d'écoliers en France. 8 millions. Quand le ministère de l'Éducation va acheter 8 millions de trousses, 8 millions de stylos rouges, 8 millions, il va le payer 30 centimes au lieu que nous, on le paye 1,50 euros, 2 euros, 3 euros chacun. Et à la fin, le parent, il va payer ce paquet, tu fais le payer si tu veux le parent. Mais au lieu de revenir
c'est gratuit, on va pas le
faire
payer.
Excuse-moi, je termine mon propos, s'il te plaît.
Non, mais ils ont évolué.
Non,
Alain.
Non, tu vois, le professeur,
Giro, moi.
L'instituteur, on a bien compris, l'instituteur qui avait juste avant, en fait, tout le monde est avec nous. Parce que l'instituteur a dit, ok, non, je suis pas pour, mais il faut que la... Voilà. Il a repris mes propos. Il faut que la calculette elle soit gratuite. Voilà. Il faut qu'Internet soit gratuit. Parce qu'il faut. En fait, il a dit non, mais il a donné tous mes arguments. Donc moi, ça m'a fait sourire. Excuse-moi. À défaut d'avoir la gratuité, vu qu'on est
dans une inflation terrible où les gens n'ont plus les moyens de rien parce que tout est cher et que nos salaires n'augmentent pas au rythme de l'inflation depuis 30 ans, excusez-moi, que le ministère de l'Éducation prenne ses responsabilités face aux difficultés des familles. Moi, j'ai reçu plein de messages entre temps, j'aurais des pubs. Que des mamans qui achètent, qui sont confrontées à ça. Parce que dans les couples.
Tu fais des choix, tu arbitres, et tu vois, la priorité en cette rentrée, c'est le gamin. On arbitre en faveur du gamin.
Dans les couples, c'est tout. Dans les couples, c'est la femme qui gère le budget. C'est rarement l'homme
qui a déjà l'allocation de rentrée scolaire. Il y a des départements qui aident.
Qui ne suffit pas. Non, le département des écoles, il donne 3,5 cahiers. Donc, que le ministère de l'Intérieur, que le ministère de l'Éducation fasse un achat groupé uniforme de toutes les fournitures et qu'au lieu que ça coûte 300 balles.
Déjà à harmoniser. Déjà.
300 balles, oui. Eh ben ça coûte 50 balles par famille par enfant. Et déjà, ça ira mieux.
Mais du coup, dans ce que tu dis, les chiffres montrent que les fournitures scolaires, elles ont plutôt baissé.
Oui, elles ont plutôt baissé.
Non, elles vont augmenter. Il y a une inflation de 4 et quelques.
Tapez n'importe quoi sur Google 4, et 25, vous verrez, hein. Parce que moi, j'ai vu qu'au contraire, ils disent exactement l'inverse de vous. Ils disent qu'en réalité, ça augmente, là.
De 4,25%.
Ouais, mais si, oui.
Et l'allocation de rentrée scolaire, elle a été revalorisée aussi. À hauteur 5,5.
Voilà.
Bon, ça compense.
L'enseignant, là, qu'on a eu l'instituteur de Loire-Atlantique, il y a des dépenses nouvelles aujourd'hui, qui sont notamment les postes informatiques, les abonnements. Moi, je suis restée des années sans ce type de téléphone, etc. Je n'en avais pas besoin. J'ai repris ça quand j'ai travaillé.
Merci à Gilles d'avoir lui aussi amené ses arguments. On va regarder le résultat de ce GG7 match du jour. On va regarder. Gratuité des fournitures scolaires, oui ou non? Ça n'a pas bougé.
Ça s'est aggravé.
72-28.
Non, mais il n'y a que les gens qui n'ont pas d'enfants qui ont téléphoné.
Bien sûr.
J'ai reçu plein de messages des mamans.
Tes cousins, ils ont tous appelé. C'est ça.
Mes cousins, ils ont tous des enfants.
C'est la team Giro.
Ils vont tous au boulot tous les matins pour payer
puis là, toutes les mamans aussi.
Dans un instant, avec nous, Florian Philippot, le parti Les Patriotes sur les réseaux sociaux n'arrête pas de mettre en garde contre une rentrée qui va être synonyme de restriction des libertés une fois de plus. Avec le Covid, il met en garde contre ce qui nous entraîne dans la guerre, dans le suivisme des Américains et de l'Europe face à la Russie. Florian Philippot dans les GG, dans les grandes gueules. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Une avocate, Marianne Soubré, une présidente d'association à Marseille, Kaouter Ben Mohamed, un agriculteur de Saône-et-Loire, éleveur de bovins, Didier Giraud, qui est avec nous. Il est midi moins 20, il nous reste un quart d'heure à passer ensemble, on accueille notre invité. Florian Philippot, président du Parti Les Patriotes, bonjour.
Bonjour.
Vous avez regardé Le Parisien aujourd'hui en France, vous avez pris connaissance de ce que dit Madame Brigitte Autran, la nouvelle patronne du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Mmh. La crise Covid n'est pas derrière nous, on va voir de nouveau un pic épidémique à la rentrée.
Oui, bien sûr, probablement. Et alors ?
Elle nous prévient, c'est de la prévention.
Oui, mais est-ce que vous avez le souvenir qu'on vous a fait ça depuis des dizaines d'années sur la grippe, par exemple ? Est-ce que vous avez le souvenir qu'on vous le fait sur une autre?
En nous conseillant de nous vacciner d'ailleurs.
Enfin, on n'en fait pas. Attendez, ça fait 2 ans et demi là qu'on est dans une espèce de paranoïa collective. Moi, je me souviens, puisque on m'a dit que vous aviez dit avant mon arrivée.
L'oiseau de mauvais augure.
Voilà, que j'annonçais toujours le pire.
Toujours le pire.
Bah, écoutez, c'est plutôt l'inverse. Parce que je me souviens de la 7e vague là en juin, juillet, où tout le monde, en tout cas, je voyais beaucoup de monde s'exciter sur les plateaux de télé en disant il faut remettre le masque obligatoire, souvenez-vous, hein, dans les transports publics, il faut le remettre à l'intérieur, dans les magasins, etc. Moi, je disais arrêtez, c'est cyclique, calmez-vous, ça va disparaître, ça a disparu entre-temps, et ça va revenir effectivement en septembre. Mais alors quoi, on va recommencer l'hystérie, on va nous dire 4e dose, on va nous dire peut-être même masque obligatoire à l'intérieur, c'est ce qu'ils ont prévu en Allemagne, hein, je vous le signale. Le ministre allemand de la Santé, M. Lauterbach, a dit à partir d'octobre, probablement, il va falloir remettre le masque obligatoire
dans les
à l'intérieur,
aussi.
Dans les transports. Et puis, vous aurez un système en Allemagne de passe avec des couleurs différentes selon votre statut vaccinal. Vous aurez le vert, le jaune et le rouge qui vous donneront des droits différents.
Donc, on va nous remettre le pass vaccinal en France?
Je ne sais pas. Tout est possible. Si vous voulez, quand on est en permanence dans cet état d'anxiété, de crise de nerfs et en fait d'entretien de la peur, c'est pour ça que je suis à l'inverse de l'entretien de la peur, puisque je ne cesse de dire n'ayez pas peur. je ne cesse de dire, investissons dans les traitements, dans la prévention, dans l'hôpital, qui est dans un état objectivement catastrophique. Mmh. Réintégrons-y les 15 000 soignants et médecins et personnels administratifs qui ont été suspendus et qui ne le sont toujours pas, parce que non vaccinés Covid, et qui ne le sont toujours pas. Même chose, on pourrait le dire sur les pompiers. Enfin, c'est un autre débat, mais c'est la même chose quand même. Et puis, on va se calmer et on va arrêter comme cela de pousser les gens vers quelque chose qui est inadmissible du point de vue des principes. Le pass, c'est inadmissible du point de vue des principes et qui est en plus totalement inefficace.
Ouais.
Donc, voire très contre-productif.
C'est pourquoi? C'est pour museler l'opinion? C'est pour museler les Français?
Moi, je pense, si vous voulez, que l'automne et l'hiver vont être chauds. Là, pour le coup, vous me direz, vous agitez la peur. Non, j'agite pas la peur, je suis assez réaliste.
Socialement?
Socialement, parce qu'il y a l'inflation très forte et parce qu'il y a possiblement des pénuries énergétiques, mais qui sont voulues. Ça ne tombe pas du ciel. C'est parce qu'on fait les sanctions anti-russes. C'est le résultat de nos choix de gouvernement.
Non, on n'a pas fait le choix de mettre les Français dans la pénurie. C'est une conséquence d'une invasion d'un pays, l'Ukraine.
C'est conséquence d'un choix qu'on a fait de répondre, qui est la sanction anti-russe, qui s'est évidemment retournée contre nous. Monsieur le maire nous disait, je vais mettre à genoux l'économie russe. Il a juste réussi à mettre à genoux l'économie française. Et on a fait ce choix-là. Résultat, on va être possiblement, nous, la France, qui était le premier exportateur européen d'électricité historiquement, depuis toujours, on va être possiblement en pénurie d'énergie, ce qui est complètement délirant, ce qui n'a aucun sens. Et donc, ça va avoir des conséquences d'abord sur les Français les plus fragiles. Il faut quand même en être absolument conscient, voire sur l'activité économique, si ça touche des industries ou des entreprises. Donc, ça va être chaud. Alors, peut-être que le sanitaire, dans ce contexte-là, où les gens seront légitimement, les Français légitimement un peu énervés par tout cela, bien peut-être que le sanitaire, si on nous remet des couvre-feux, des confinements éventuellement, ou même simplement des passes, des restrictions, une ambiance d'anxiété, une ambiance où on vous tient par la laisse autour du cou, ça peut être un moyen de gestion sociale, effectivement.
Oui, mais si le virus revient, il faudra bien réagir.
Mais il va revenir, de toute façon. Mmh.
Mais alors,
oui, mais c'est pas très grave s'il revient.
Votre position, c'est quoi, monsieur Philippot? C'est pour ou contre le vaccin?
Enfin, là, on arrive à une... J'essaie d'avoir une position un peu plus subtile.
On doit se faire vacciner.
J'ai toujours la même position depuis le début sur le vaccin. Je pense que ça doit être un acte de liberté.
D'accord.
Et que ça doit être en relation interpersonnelle entre son médecin et soi-même. Point barre. Voilà. Oui, et qu'il ne doit y avoir aucune contrainte, aucune obligation.
On n'a jamais eu l'obligation.
Pour des professions, si. Beaucoup de professions sont soumises à obligations vaccinales. Le pass vaccinal était une quasi-obligation, sinon vous étiez mort socialement.
Je vous rappelle, monsieur Philippot, que ces professions qui ont l'obligation vaccinale sur le vaccin Covid l'ont également sur tout un tas de maladies, hépatite et tous les vaccins obligatoires. Donc en réalité, c'est pas nouveau pour les médecins, pour le personnel soignant, d'avoir une obligation vaccinale.
Alors, sauf que, vous avez raison, il y a d'autres vaccins obligatoires, mais l'hépatite, c'est un bon exemple. Le vaccin est commercialisé en 82. Vous savez quand est-ce qu'arrive l'obligation vaccinale pour les soignants?
Alors non.
En 91, 9 ans plus tard. Pas 3 semaines plus tard. Et puis, on ne vous demande pas de le faire tous les 4 mois. Vous voyez, et puis nous avons des retours d'efficacité.
En fait, on vous le demande pas parce qu'en réalité deux doses suffisent. Mais, ça serait obligatoire d'en faire tous les 4 mois. Vous le feriez tous les 4 mois.
Mais sauf que c'est ce produit, le vaccin Pfizer ou Moderna ARN messager, on nous avait annoncé des promesses extraordinaires. Souvenez-vous des 96% d'efficacité. Même le PDG, Monsieur Bourla, qui est en train lui-même d'affronter le Covid en ce moment, disait, j'en ai retrouvé son tweet, c'est formidable, la nouvelle version du vaccin empêche 100% des cas en Afrique du Sud. 100% avait-il tweeté. Le tweet est toujours en ligne. Ça, c'était en 2021. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Ça n'empêche ni la contamination, ni la transmission. Donc, en réalité...
On sait que ça réduit, par contre, l'intensité. Enfin, en principe. On l'a vu.
On aura un retour.
On a eu beaucoup moins de morts, quand même.
On a moins de morts, surtout parce que vous avez les moins de morts. Donc, quel que soit le nombre de vaccinés dans tous les pays du monde, parce que vous avez des variants qui sont de moins en moins dangereux.
Donc, finalement, c'est en train, petit à petit, ce Covid est en train de s'en aller, quoi.
Ça fait longtemps, en fait.
Mais c'est pour ça que je ne comprends pas, si vous voulez, l'hystérie. Et de toute façon, tout ce qu'on a fait n'a servi à rien, si ce n'est de créer 650 milliards d'euros de dettes et des dépressifs à vie.
Non. Je ne sais pas d'où vous sortez ces stats.
Ce sont les chiffres officiels.
Je ne vous connais pas très bien, c'est la première fois que je vous rencontre, mais je crois que vous n'êtes ni médecin, ni en responsabilité. Donc déjà, ça vous disqualifie sur beaucoup de choses.
Ah donc moi, on n'est ni médecin ni en responsabilité. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, ça veut dire on ferme sa gueule en fait.
Non, enfin pas sa gueule, moi je l'ouvre beaucoup, c'est pour ça que je suis là.
Non,
je l'ouvre beaucoup, c'est pour ça que je suis là. Je dis qu'en fait, on n'a pas la science infuse quand on ne sait pas de quoi on parle parce que c'est pas notre métier tout simplement.
Mais je sais de quoi je parle.
Et donc non, vous savez pas. Moi je vais faire beaucoup plus confiance.
Beaucoup plus renseigné que certains médecins de plateau de télévision qui parlent sans savoir.
Ceux qui prennent les décisions ne sont pas les médecins de plateau télé, ce sont des médecins qualifiés et qui sont nommés pour ça. Donc moi j'ai quand même beaucoup plus confiance, y compris en tant que personne polypathologique, au conseil des médecins qu'au conseil d'un responsable politique et que ça aide d'exister. Et justement, moi, je considère que c'est vous qui avez des propos irresponsables, c'est vous qui créez l'angoisse parce que sécuriser le pays... Moi, je suis née en 1977, je ne crois pas qu'en 1982 ou en 1991, le monde entier ait été confiné. Donc, à situation exceptionnelle...
Le monde entier n'a absolument jamais été confiné.
Ah bon?
Mais ça, vous êtes victime de la désinformation.
Ah, pendant le premier Covid, le monde ne s'est pas arrêté.
Absolument pas, il y a plein de pays qui ne se sont pas confinés.
Ah ben écoutez, il y a quand même la majorité...
Oui, l'Angleterre ou la Suède.
La majorité des pays du monde, je vais le dire d'une cette manière, voilà,
et ça donne
un très grand pourcentage ont été confinés, etc.
Et attendez, juste, vous avez peut-être raison, beaucoup de pays se sont confinés. Et aujourd'hui, les résultats, ça donne quoi? Est-ce que vous avez regardé la réalité de ces pays en termes de sanitaire aujourd'hui et ceux qui n'étaient pas confinés? Vous avez comparé, parce que c'est ça, être sérieux scientifiquement, c'est de comparer.
Oui.
Vous avez un groupe témoin qui s'est pas confiné et vous avez un groupe qui s'est confiné. Les résultats sont souvent pires dans les pays confinés. Par exemple, la Suède n'a plus rien depuis le mois de mars dernier.
La population de la Suède et la population de la France ou des États-Unis, monsieur, n'est pas la même. Quand on veut faire des statistiques jusqu'au bout, on est quand même beaucoup plus nombreux chez nous, excusez-moi.
Mais le Japon
exactement.
Non plus.
Exactement.
Mais le Japon est beaucoup plus dense et ne s'est jamais confiné. Et si vous voulez, regardez aujourd'hui, ils ont des meilleurs résultats en termes de mortalité Covid, mais en plus, ils n'ont pas les 600 milliards de dettes qu'on a eues à cause des fermetures qu'il faut rembourser, les prêts garantis par l'État, etc. Et en plus, ils n'ont pas détruit les libertés, et en plus, ils n'ont pas les enfants traumatisés, les tentatives de suicide chez les adolescents, les pertes de chance chez les cancéreux, etc.
Il n'y avait pas le même hôpital.
Mais vous avez raison, on a laissé l'hôpital se dégrader.
D'accord avec vous. COVID, parce que vous nous avez parlé du Covid, et vous avez dit on va avoir une rentrée qui va être difficile à cause de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine, qui est là depuis 6 mois maintenant, cette guerre en Ukraine. Ça a été une folie de sanctionner la Russie.
Ah, je pense que c'est complètement inutile et contre-productif. Mais en fait, on le savait déjà.
Vous condamnez l'invasion de toutes les manières.
Oui, bien sûr,
par la Russie.
Mais je l'ai dit très clairement. Je dis simplement, moi j'ajoute un élément d'analyse supplémentaire, c'est d'où vient cette situation. Parce que je ne veux pas qu'on soit dans le Walt Disney pour enfants de 4 ans, si vous voulez, où il y aura les très très méchants et les très très gentils. Je ne crois pas à cela. Je pense qu'il y a une situation géopolitique qui s'est dégradée depuis 30 ans. Parce que l'OTAN progressivement a encerclé la Russie. Imaginez, il y aurait encore le pacte de Varsovie, il aurait encerclé au Canada et au Mexique les États-Unis. Au bout d'un moment, les États-Unis auraient pété un câble et possiblement seraient rentrés en guerre, puisque c'est quand même le pays qui, historiquement, ces dernières décennies, est le plus entré en guerre et a fait le plus de morts dans le monde. Ce sont les États-Unis, pas la Russie. Je dis simplement, nous en sommes arrivés là. Aujourd'hui, on continue quand même une stratégie qui me paraît complètement folle. Ça n'a pas de fin, on va livrer des armes comme ça. Indéfiniment, 70% d'ailleurs des armes sont détournées, on le sait par un documentaire récent de la chaîne CBS. Bon, ils partent où ces armes? Elles partent sur les mafias, elles partent parfois même en Russie, elles vont revenir dans certaines banlieues françaises, etc. dans quelques années. Et en même temps, on fait des sanctions qui en réalité ne pénalisent pas la Russie, puisque de toute façon, elle vend en Inde, elle vend en Chine, elle vend au Brésil, elle compense, elle sait s'organiser, on la met dans les bras de la Chine. Bref, c'est fou, on s'appauvrit. On crée des pénuries énergétiques, ce qui va frapper d'abord les plus pauvres d'entre nous, c'est évident, les millions de ménages français les plus pauvres, plus les entreprises et l'industrie. Et à côté de cela, on continue avec la folie guerrière de l'OTAN. Moi, je pense qu'il faut quitter l'OTAN. Je suis responsable, je pense que pour la paix, il faut que cette organisation disparaisse. Ça n'est plus une organisation du tout défensive, c'est une organisation belliciste, c'est une organisation de guerre, c'est une organisation d'impérialisme américain.
Dans l'actualité aujourd'hui, on a le problème des rodéos urbains, avec Gérald Darmanin qui a annoncé 3 interventions par jour et par commissariat là, pour cette rentrée. Vous y croyez à ces muscles, cette démonstration policière?
C'est un peu un marronnier de l'été, les rodéos urbains, on en parle.
Oui, il y en a toujours eu.
Ouais, il y en a probablement de plus en plus, mais je sais pas, Monsieur Darmanin a tellement l'habitude de tweeter et de parler qu'on ne sait plus quand est-ce qu'il parle dans le vide ou quand est-ce qu'il parle pour vraiment faire des choses derrière. il faut être intransigeant avec ça, c'est insupportable. D'abord, c'est hyper dangereux, il y a des morts. Il y a des enfants récemment qui ont été extrêmement, qui sont morts ou gravement blessés. C'est extrêmement pénible pour le voisinage, c'est insupportable. S'il faut faire du contact direct, on fait du contact direct, comme on dit, hein, comme le fait la police britannique. Moi, ça me choque pas du tout.
En faisant tomber les motos.
Oui, s'il y a une police bien formée pour le faire, on peut le faire. Et il faut donner, je pense, quelques exemples clairs pour arrêter cette folie.
Enfin, c'est des exemples clairs. Moi, j'en ai donné un ce matin. Mon frère s'est pris une moto dans la tête quand il était petit parce que sur une course poursuite. Donc, il y a aussi des victimes collatérales qui peuvent aussi mourir ou être très gravement blessées.
Et il faut attaquer l'État comme le fait l'avocat pour inaction.
Pourquoi pas? Je suis pas hyper favorable, si vous voulez, aux actions judiciaires contre, en matière politique, en matière, je veux dire, pour être très précis, en matière d'action gouvernementale. Je pense que quand il y a des gens qui sont victimes, elles doivent le faire. Il est normal qu'il y ait des procès, qu'il y ait des responsables. Les ministres peuvent être responsables et coupables. Ils le sont souvent et pas assez condamnés. Mais je pense que si on veut qu'une politique publique avance, l'action des tribunaux ne suffit pas. Ça doit être une volonté politique. C'est le citoyen français qui a l'arme dans sa main. Ça s'appelle le bulletin de vote, la mobilisation, la manifestation. Enfin, il y a plein de choses différentes. Il n'y a pas que le vote. Pour faire savoir qu'il en a marre et qu'il a envie que ça bouge.
Justement là-dessus, Monsieur Philippot, est-ce que vous ne sentez pas un peu écarté, justement, quand on voit comme le RN a pris beaucoup d'importance, ils ont un groupe parlementaire qui est extrêmement élevé. Vous les avez quittés il y a quand même plusieurs années.
5 ans.
Vous ne sentez pas, vous, un peu cornérisé et complètement seul, en fait, au final? Parce qu'on vous dites le bulletin de vote, aujourd'hui, vous paraissez un peu seul.
Écoutez, moi, j'ai toujours considéré que la politique, je suis parti parce que le RN, en 2017, a renoncé au Frexit, à la sortie de l'Union européenne. C'est clair. Depuis, ils ont renoncé de plus en plus. Bon, résultat, la politique, c'est quoi? Soit un choix de conviction. On se bat pour ses convictions et je le fais pas seul. On a 40 000 adhérents patriotes, plus que le RN. On fait des manifestations encore samedi 3 septembre. On se donne rendez-vous à Paris, place de la Bourse à 14h, pour information, pour un rendez-vous de la résistance, et on va être extraordinairement nombreux. Le RN ou n'importe quel autre parti politique n'est pas capable de mettre autant de monde dans la rue. Donc je suis tout sauf seul, mais c'est vrai que je fais un choix de conviction.
Moi, quand je dis qu'il
faut sortir de l'OTAN,
il
faut sortir de l'Union européenne, j'y crois et je pense que c'est indispensable pour que notre pays sorte de la catastrophe. Le RN a 89 députés, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais ils servent à quoi? Au bout d'un moment, on verra.
Ils viennent d'arriver.
Oui, mais là, ils ont eu un mois et demi.
Ils ont voté avec le gouvernement.
Qu'est-ce qu'ils ont bloqué chez Macron? Qu'est-ce qu'ils ont fait avancer comme idée? Sur le pouvoir d'achat, ils ont validé la logique des petits chèques, etc. Tant mieux, les gens préfèrent avoir le chèque dans la poche que pas l'avoir, je peux parfaitement le comprendre. On est tous pareils. Enfin, c'est pas ça qui va régler le problème du pouvoir d'achat. Le problème du pouvoir d'achat, c'est les salaires, c'est les retraites, c'est l'organisation de notre système économique, c'est la réindustrialisation de notre pays. Ce qui n'est pas possible avec les accords de libre-échange, avec l'Union européenne.
Et vous pensez pouvoir le régler, vous?
Moi seul, non. Mais je pense avoir des convictions qui sont mises dans le débat. Après, chacun, vous êtes d'accord, pas d'accord, mais on en débat. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus authentiques, solides et sincères que le RN aujourd'hui qui a renoncé à tout. Je dis pas que tous leurs députés ont renoncé à tout. Vous voyez, j'ai essayé d'être vraiment juste. Mais je pense qu'ils ont aujourd'hui une espèce de mollesse d'expression, de tiédeur. Et en fait, une normalisation qui est allée tellement loin qu'ils servent plus à grand chose.
Et merci Florian Philippot. Merci d'être passé par
Merci à vous.
GG. Rémi Barré va nous rejoindre parce que la discussion va continuer sur RMC. Et RMC Story, mon cher Rémi Estelle Midi. Bonjour Rémi.
Salut Alain, salut les grandes gueules. Dans un instant, effectivement, on va parler de la baisse des prix des carburants. Vous l'avez certainement constaté en allant à la pompe. Ils n'ont jamais été aussi bas depuis février. Alors, ils restent élevés, c'est vrai. Mais ça devrait continuer à baisser. Et on se pose la question, est-il temps de mettre fin aux aides? Le député de la France Insoumise, Émeric Caron, réclame, c'est pas le premier, hein, l'interdiction de la corrida. Pour ou contre? Gérald Darmanin, vous en parliez à l'instant, annonce des milliers de contrôles contre les rodéos urbains. Bonne nouvelle ou coup de com'? Et puis une chaîne de magasins britanniques vient de s'y mettre. Faut-il supprimer les dates de consommation pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Pour le riz et pour les pâtes, la date limite de consommation,
c'est vrai.
Il n'y a pas vraiment grand chose à y faire. Et vous nous appelez évidemment au 32-16.
Bonne émission avec Rémi. Nous demain, Étienne Yebic, Johnny Blanc, Barbara Lefebvre et le président des Jeunes Républicains, Guillaume Carayon, qui sera avec nous. Allez, à demain 9h.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.